Et c'est une jeune femme que j'accueille maintenant, c'est Léocadie. Bonsoir Léocadie.
Bonsoir, vous m'entendez bien ?
Je vous entends très bien. Quel prénom original, dites-moi.
Merci. Oui, c'est un prénom de Louisiane.
De Louisiane ?
Oui. Et pourtant, je suis bien française, hein, mais c'est grâce à mes parents qui aiment la musique cadjien, voilà, qui m'ont attribué ce très beau prénom.
Quel âge avez-vous, Léocadie ?
J'ai 21 ans.
Mm-hmm. Et alors, qu'est-ce que vous voulez nous dire ce soir ?
Alors, ce soir, j'ai été invitée parce que, en fait, j'ai vu le post sur Facebook et, en fait, je me suis proposée parce que j'ai écrit une lettre ouverte pour le président concernant notre situation, les jeunes. Donc, c'est vrai que j'ai envie de faire partager ce message parce que moi, j'ai de la chance, vraiment, en tant qu'étudiante, je suis en colocation. J'ai des cours en présentiel, je peux sortir de chez moi, ça fait vraiment plaisir, mais je sais qu'autour, c'est pas cette réalité-là, elle n'est vraiment pas pour tout le monde.
Ouais.
Et c'est pourquoi j'ai vraiment souhaité écrire ce message.
On va en parler. Dans quelle filière êtes-vous ?
Alors, moi, je suis dans une licence professionnelle en valorisation, animation et médiation des territoires ruraux.
Fichtre ! Qu'est-ce que vous avez envie de faire de tout ça après ?
Eh bien, moi, j'ai envie de venir chargée de projet. Alors, moi, mon domaine d'activité, ça va être l'environnement. Et le but, c'est de travailler dans des associations, des choses comme ça, pour travailler pour le développement durable, la transition écologique, trouver des solutions pour demain et surtout pour essayer de préserver notre environnement en permettant à l'homme de continuer à en profiter.
D'accord. Cette lettre ouverte, vous l'avez publiée quelque part ?
Alors oui, aujourd'hui, elle est publiée sur mon Instagram, sur mon Facebook. Elle est publiée sur le blog Internet Mediapart, France Soir, et elle paraîtra dans le numéro de mars de L'Âge de Fer.
Bon. Est-ce que vous voulez nous la lire ?
Eh bien, oui, ce sera avec plaisir.
Alors juste pour info, est-ce qu'elle est longue ?
Oui, un petit peu. C'est vrai que j'ai un peu mis le paquet. Donc,
Parce qu'en fait, dans deux minutes, on va voir la coupure pour les informations.
Oui.
Et ça m'ennuierait de vous couper au milieu de la lettre.
Oui.
Donc je pense qu'on va plutôt discuter un petit peu toutes les deux pendant
une
minute trente. Et on la commencera après, comme ça vous pourrez la faire d'une traite et ce sera plus agréable quand même. Hein.
D'accord, c'est parfait.
Dites-moi un petit peu dans quelle région vous êtes, Léocadie.
Eh bien, moi je suis, pour faire de plus en plus petit, donc moi je suis dans la région Aquitaine, dans le département de la Gironde, et moi j'habite dans le Médoc, donc c'est au nord de Bordeaux, et j'habite dans la ville de Margaux.
D'accord, j'avoue que je ne connais pas du tout cette belle région-là.
Voilà, donc moi, Margaux, pour ceux qui sont un peu amateurs de vin, il y a le château Margaux, château Lacombe, de grands châteaux, voilà. Oui.
Ça, je connais pour le coup.
Voilà, ça permet de donner un petit point de repère assez symbolique. Et donc moi, je suis étudiante pour autant à Périgueux. Et comme je vous disais, c'est vrai qu'en tant que jeune, ça dépend quand, mais j'ai eu des situations où j'étais en visio et là, aujourd'hui, je suis en présentiel et je me rends bien compte quand même de la chance que j'ai.
Et ça change la donne, évidemment. Et vous êtes en colocation, vous m'avez dit.
Oui, je suis en colocation. On est quatre, donc c'est vrai que ça fait une bonne ambiance. Du coup, on garde quand même un rythme social assez, assez mouvementé. C'est très sympa et ça fait du bien parce que quand on est jeune, on a quand même envie, on a envie de bouger, d'un peu s'amuser. Et c'est vrai que ça fait du bien au corps et à l'esprit d'avoir ce petit train de vie.
Et oui, on veut bien bosser, mais il faut des compensations aussi à côté, évidemment.
C'est ça.
Bon, Léocadie, on fait comme on a dit, on marque une courte pause le temps des infos.
Ça marche.
Et on vous reprend, vous et votre lettre ouverte au président juste après, d'accord ?
Très bien, merci beaucoup.
À tout de suite.
22h30, 1h, la libre antenne d'Europe 1. Sabine Marin.
Et je retrouve Léocadie. Vous êtes là, Léocadie ?
Oui, toujours là.
Alors, vous souhaitiez nous parler, nous faire partager ce soir une lettre ouverte au président de la République. Concernant la situation des jeunes, alors je vous écoute maintenant, on vous écoute, avec beaucoup d'attention.
D'accord. Alors, Monsieur le Président, je suis jeune, j'ai 21 ans depuis janvier. Comme vous l'avez énoncé si bien, il est dur de vivre en cette période lorsque l'on a 20 ans. Peu importe où nous nous trouvons et ce que nous faisons, mais dans la folie de notre jeunesse, on veut vivre. On veut profiter de ce que le monde a à nous offrir, de la culture, du sport, de la nature, de nos amis, du monde. Et aujourd'hui, être dehors devient presque un renouveau. Trouver la bonne raison de sortir lorsque nous avons une attestation, gagner quelques minutes pour braver le couvre-feu, savoir profiter des quelques heures de liberté qui nous sont offertes. Comment peut-on rester fougueux, plein d'envie, de rêves et de projets, et surtout d'espoir, lorsque l'on voit nos libertés, le dehors se refermer sur lui-même. Les journées deviennent courtes, non plus rythmées par la lune et le soleil, mais bien par des restrictions. Le rythme biologique de nos vies a aussi des limites. Nous, qui voulons utiliser les moindres minutes des 24 heures que nous avons, nous sommes réduits à vivre au rythme de notre scolarité pour la plupart. Par quels moyens pouvons-nous espérer un lendemain, sachant que nous vivons avec un minuteur ? Un compte à rebours nous empêchant d'exprimer notre vie le long d'une journée. Monsieur le Président, les rêves, les projets, eux, ne s'arrêtent pas. Comme l'énonce Haïli Soupeau, nous avons été solidaires. Nous avons appris les gestes barrières. Nous avons attendu et respecté, patiemment, en espérant que les personnes touchées diminuent. En effet, ce virus a tout fait basculer dans nos vies. Mais pour autant, doit-il les manipuler ? Nous vivons aujourd'hui au rythme de ces mutations, ces évolutions, sa contamination. Jusqu'où irons-nous ? Nous voyons les couvre-feux, eux, se raccourcir, passer de 21h à 20h et enfin à 18h. La vie, elle, continue son cours. S'occuper de sa famille, pratiquer un sport, voir ses amis, nous devenons des morts-vivants. Nous avons protégé nos aînés, nous nous sommes protégés en fermant les universités, en restant face à des écrans. La réalité nous échappe, la réalité de la vie en université, la réalité de la rencontre, la réalité du monde des études. Ce que vous savez sûrement, nous, les étudiants, bougeons beaucoup. Trains, avions, trams, bus, eux sont remplis à l'inverse de nos établissements scolaires et des lieux culturels. Je vois ici un dilemme. Endiguer le virus ou anéantir les relations humaines. Nous vivons dans un bal masqué où nous ne pouvons plus découvrir la personne d'en face. Protégés de la maladie en contrepartie des expressions du visage. Jeunes, fougueux, vivants et bientôt privés d'espoir. Oui, aujourd'hui, nous voulons profiter de notre jeunesse. Le retour à avant est illusoire. Pour autant, le après, vous en avez les clés. Nous museler, c'est nous perdre. En quoi ou en qui croire lorsque la personne qui nous guide, Monsieur le Président, nous rend sans vie et simplement numérisée. Nous avons surmonté de nombreuses mesures, compréhensives. Maintenant, notre patience a ses limites. Le mot vivre résonne dans nos cœurs, le mot liberté cogne dans nos esprits. Alors stop, si votre devoir est de promouvoir des projets de loi qui normalement devraient soutenir la jeunesse de France, mon devoir est d'accuser leurs conséquences. Ouvrez les yeux et regardez-nous, non pas tel que vous pensez nous voir à travers les informations, mais bien ce que nous sommes. Nous sommes demain, nous sommes l'avenir. J'ai de l'espoir, je suis positive, je veux avancer. Monsieur le Président, si vous lisez ces mots, saurez-vous nous tenir vivants. Bien à vous, Léocadie Bouillot.
Bon, bravo Léocadie, c'est un grand cri du cœur.
Merci.
On est très très loin de l'optimisme de Mathieu et de Sacha tout à l'heure. Il y a quelque chose qui m'ennuie un peu dans ce discours-là. Et d'ailleurs, c'est curieux parce qu'à la fin, vous dites l'inverse. Vous avez dit à un moment donné, privé d'espoir. Et là, je ne suis pas d'accord avec ça. Personne ne peut nous priver de quelque espoir qu'il soit. L'espoir, c'est à nous de le créer. À vous. Et d'ailleurs, vous le dites à la fin, vous dites, j'ai plein d'espoir encore, finalement. Vous voyez ? Heureusement, finalement, vous avez cette contradiction.
Oui, c'est vrai que j'ai cette contradiction. C'est très intéressant de le remarquer, d'en discuter maintenant. C'est vrai qu'à certains moments, les étudiants, lorsqu'on voit nos cours en visio, qu'on voit que ça ne s'arrête pas, que ça se prolonge, je pense qu'il y a des moments où on tombe vraiment au fond, on ne voit pas de lumière.
Des moments de désespoir. Là, je suis entièrement, je vous rejoins. Des moments de désespoir.
Oui. Voilà. Mais moi, ici, je termine ici parce que j'ai de l'espoir et c'est vrai que je ne l'exprime pas assez. Mais comme je vous l'ai dit, je fais partie des étudiants qui ont réellement de la chance. Et j'ai la chance d'avoir ma famille, j'ai la chance d'avoir ma chambre, mon chez-moi, de pouvoir sortir, d'avoir des cours en présentiel. Donc, c'est vrai que c'est des termes qui peuvent être pris dans différents sens et à différentes périodes, mais je pense que c'est des choses réelles, même si ça passe d'une expression de son plus bas à son plus haut, mais je pense que c'est important de le rappeler. C'est vrai que c'est pas très optimiste, mais c'est vrai que c'est quelque chose que... Je veux le rappeler, je veux le dire. Mais c'est vrai que c'est bien à côté qu'on ait des jeunes qui disent « Mais non, accrochez-vous et on va le vivre, ça va le faire.
Pour » Pour vous, l'essentiel, c'est vraiment de rouvrir les facs maintenant ?
Je pense. Alors, les plus essentiels. Alors déjà, j'étais très contente qu'il n'y ait pas un nouveau confinement. C'est vrai que déjà, ça faisait très mal au cœur. Donc ça fait du bien. Et je pense que oui, une petite partie de rouverture des universités ferait du bien parce qu'il y a des étudiants... Des gens qui viennent de l'autre bout de la France et qui sont obligés de bouger. je ne sais pas, par exemple, moi, je serais de Bordeaux, je devrais aller jusqu'à Lyon, par exemple, ce serait quelque chose, ça me bougerait complètement de chez moi et ça me perturberait énormément. Je ne connaîtrais personne, je serais obligée de prendre un appart dans un endroit que je ne connais pas. Donc, l'université, c'est quand même un lieu de rencontre et on peut au moins essayer de se soutenir comme ça, au moins les jeunes. Après, il y a toutes les associations étudiantes, il y a les bibliothèques, les lieux de recherche. Enfin, il y a plein de choses qui permettent de au moins croiser un peu les gens.
Oui, je comprends. Est-ce que vous aviez un petit boulot, vous, par exemple, en plus, ou pas du tout?
Alors, non, moi, j'ai pas de petit boulot parce que justement, je bouge beaucoup et du coup, ça m'empêche un peu d'avoir quelque chose de fixe. Mais j'ai des gens dans ma promo qui, eux, ont réussi à trouver des petits jobs.
Même depuis le Covid?
Oui.
Ah, ça, c'est une bonne nouvelle parce qu'on a quand même plutôt tendance à dire que tous ces petits jobs sont en train de disparaître et que pour les jeunes, c'est très compliqué.
Oui, bah c'est vrai qu'il y a la peur de confinement, pas confinement. Est-ce qu'on peut vous prendre ou pas? Est-ce qu'il y a les fonds? Enfin voilà, il y a plein de petites choses.
Et puis il y a beaucoup de boulot, par exemple dans le babysitting, ça marche plus parce que les gens sont beaucoup à la maison, donc ils ont moins besoin d'étudiants après pour la journée. Il y a aussi tout ce qui est dans la restauration. Il y a plus tous ces petits boulots là aussi. Hein.
Oui, ben moi je connais des gens qui fonctionnaient notamment avec les saisons, etc. Donc c'est vrai que c'est inquiétant
bien,
parce
voilà
que.
Aussi, ouais.
Oui, la question des saisons, il y a beaucoup qui marchent. Voilà, les étudiants, en général, on fonctionne comme on dit, hein, on est les grands saisonniers. Et c'est vrai que bah, cet été, ça fait peur. On se dit, mais moi, je vais trouver où? C'est vrai que la restauration est un grand milieu de travail. Donc, bon, il reste encore d'autres secteurs, peut-être en animation, en agriculture, etc. Mais c'est vrai que la restauration, ça fait peur. Et puis même pour les restaurateurs eux-mêmes, on a un peu peur. On est, mais qu'est-ce qui va se passer?
Non, ce qui est compliqué pour vous quand je vous entends parler de l'été prochain, par exemple, c'est que vous êtes à un âge où on ne vit que de projections et de projets et des choses qu'on met en place et que là, pour l'instant, des projets, c'est compliqué. On n'a pas de visibilité, quoi.
Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai que là, moi, j'ai de la chance. Je peux me projeter. J'ai quand même des projets, moi, personnels, de formation, de création qui... Mais je pense que c'est quand même possible, je peux quand même me projeter et c'est des choses, je pense, réelles, comme un stage que je peux effectuer, je peux le prolonger jusqu'à 6 mois, ça c'est réel. Après, retrouver peut-être un travail pour quelques mois, je pense que je vais devoir chercher, mais je me dis c'est peut-être possible et peut-être partir en vacances, entamer une nouvelle formation. Je me dis, bon, c'est peut-être des choses qui, structurellement parlant, face à la pandémie, sont réalisables. Mais c'est vrai qu'il y a d'autres choses. On se dit, bon, je vais devoir revoir, quoi. Je vais devoir revoir mon fonctionnement. Et des fois, ça fait... On peut pas s'exprimer comme on veut. Je veux dire, en termes d'envie, des fois, on est obligé de se limiter, quoi.
Mais vous savez, j'en parlais tout à l'heure, on était en train de parler de ça entre nous, je crois que chaque génération a connu aussi des épreuves difficiles. Je ne parle même pas de ceux qui ont connu la guerre, mais vous savez, dans les années 80, il y avait la génération SIDA aussi. Hein. Mm-hmm. Et c'est aussi des jeunes qui ont été privés de beaucoup de liberté à ce moment-là.
Oui, ben c'est, moi j'y pense, c'est vrai que je me dis, mais c'est dingue, ça se trouve... Moi, c'est vrai que je n'ai pas beaucoup d'informations, donc je préfère ne pas m'avancer sur le sujet pour ne pas dire n'importe quoi. Mais moi, par exemple, je me dis, est-ce que les jeunes d'aujourd'hui, si on est obligé de subir ça, est-ce que plus tard, dans notre vie d'adulte, est-ce qu'on va reporter ces regrets, ces manques plus tard dans notre vie d'adulte? Et au final, est-ce qu'on sortira? Est-ce qu'on aura besoin de ça, de ces sorties? C'est vrai que ça, je me pose la question. Je me dis, comment on va vivre, nous, justement, en tant qu'adultes? Moi, je me suis posé la question.
S'il y avait quelque chose à en apprendre de cette crise, qu'est-ce que ce serait pour vous? Pour grandir et avancer?
Alors, je pense qu'il y a beaucoup de choses. Ça dépend. C'est très subjectif, au final, que je vais apporter comme réponse. Ben, c'est vrai qu'on voit la vie différemment. On se dit, aujourd'hui, j'ai envie de profiter de mes journées à 100%. J'ai pas envie de vivre de regrets. On apprend aussi à profiter vraiment de ce qu'on a. Moi, qui est très en environnement, j'apprends à vraiment observer que des fois, en donnant un grand coup de pouce ou trouvant des mesures vraiment drastiques, on peut essayer de sauver l'environnement. Après, justement, cette réflexion sur les projets, comment on veut se projeter, vivre notre vie, au final, on est obligé de se poser 5 minutes et se dire, bon, ok, c'est quoi mon avenir? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qui est possible? Et je pense que c'est intéressant, mais je pense qu'on attend quand même d'avoir... Le avant n'existera plus, ça c'est sûr. Et voilà, il y a toujours des évolutions dans la vie, c'est comme ça. On est obligé d'avancer parce qu'on ne fait pas du reculons.
Exactement. Et vous ne pensez pas aussi que c'est une manière d'apprendre la valeur des choses et que finalement, comme disait tout à l'heure, je crois que c'était Mathieu qui parlait de ça, la valeur d'un baiser, d'un sourire,
d'un
échange,
je pense.
Des choses qui semblaient tellement évidentes qu'à la limite, même ça nous enquiquinait. C'était tellement banal, c'était tellement la routine. Et aujourd'hui, on se rend compte de la valeur de tout ça.
Mais je pense, si, c'est vrai qu'il y a tout ce côté, le langage, non-verbal, en fait, qui passe par le regard. Aujourd'hui, c'est vrai que le sourire, on ne l'a plus, donc c'est un peu le questionnement de qui est-ce qu'on a en face, comment on peut le percevoir, on a son regard, et un regard, c'est très parlant quand même. Donc, je pense que la relation avec les autres... Je pense qu'il y a beaucoup de choses dont on se rend compte que dans la vie de tous les jours, on va appréhender la personne d'une autre façon. En fait, on n'a plus que ses yeux. Vous voyez, avant, on pouvait se juger par une tête entière et là, on n'a plus que les yeux et la parole. Donc, c'est vrai que c'est deux forces énormes. Le regard et la parole, c'est des forces. Il faut savoir bien maîtriser et apprécier.
C'est important ce que vous dites. Vous savez, nous avons 5 sens visuels. Auditif, kinesthésique, le toucher, donc olfactif et gustatif. Et ces 5 sens nous servent à longueur de journée pour tout, même pour apprendre, évidemment. Plus on apprend par différents sens, plus ça rentre. Et ce système de fonctionnement qu'on a à cause de la crise sanitaire nous oblige à nous servir pratiquement que du visuel et de l'auditif. On a perdu le kinesthésique, on a perdu le toucher.
Mais c'est vrai,
et ça complique beaucoup de choses.
Oui, je pense aussi, bon, moi par exemple, au niveau de la parole, moi je pense aux tout petits qui apprennent à parler, qui ne voient pas le visage. C'est vrai que c'est embêtant. Enfin, c'est même inquiétant.
Je crois qu'ils ont mis en place des masques transparents justement pour ces situations-là.
Bon,
c'est... On parlait justement de sourire, de regard et de relations humaines. J'aimerais glisser vers les relations amoureuses, que ce soit pour vous ou dans votre entourage. Comment ça se passe globalement pour vous tous là? Comment est-ce qu'on arrive à. Cette année, à 20 ans, à se rencontrer, à flirter, à tomber amoureux?
Ça, c'est beaucoup de choses. Je dirais que ça reste quand même de la rencontre en premier lieu. Ensuite, il y a, moi, je ne le fais pas trop, mais il y a tous les sites de rencontre.
Et oui, mais où est-ce qu'on se retrouve après? C'est pas le tout, le virtuel, mais est-ce qu'un jour, ça devient concret maintenant ou pas du tout?
Ça devient concret. Enfin, moi, c'est vrai que je fais des sports style surf et skateboard. Donc moi, je rencontre les skateurs au skatepark, les surfeurs à l'eau. Il y a un moment, on voit nos visages. Moi, j'ai une amie, elle est partie rencontrer quelqu'un suite à un rendez-vous sur Tinder. Je veux dire, les choses, elles se font.
Alors justement, bon exemple. Elle était rencontrée où ce garçon?
Eh ben, elle l'a rencontrée, je crois. J'aurais pu vous dire, elle est partie, je crois, dans un parc. Ils se sont rencontrés, ils sont partis marcher.
Dans un parc, oui, forcément.
Je veux dire, oui, maintenant, les sorties, si vous voulez, les dates au restaurant,
etc. Il n'y a plus de café, il n'y a plus de resto, il n'y a plus de ciné. Oui, c'est compliqué d'aller amener, se découvrir aussi.
Oui, mais c'est vrai que c'était le petit truc. Enfin, moi, la première, c'est vrai que c'est agréable. On se rencontre, on parle des airs dans un café, on va se promener en ville. C'est des choses un peu... ça fait les premiers souvenirs, en fait. C'est vrai que marcher, c'est bien, mais créer des choses où on partage vraiment, c'est un lieu de partage, les cafés et tout ça. C'est vrai qu'une balade est agréable, mais ponctuée par des petits endroits un peu plus publics, c'est agréable. Trouver le petit café...
J'entends que vous trouvez quand même des solutions.
Oui, je pense que la rencontre humaine est un besoin. L'homme reste quand même un mammifère et il vit en groupe, sauf quelques personnes. Voilà, il y a toujours des gens qui aiment bien être seuls, mais je veux dire, l'homme reste un animal qui a besoin de vivre en groupe, donc la rencontre s'opère forcément à un moment ou à un autre.
C'est vrai. Qu'est-ce que vous espérez de cette lettre?
Eh bien, cette lettre, j'espère que déjà, elle fait réagir des jeunes, que des jeunes se sentent concernés par mes mots. Et c'est vrai que j'aimerais vraiment, ce serait le plus, de vraiment pouvoir être touchée au plus haut et de se dire, pourtant, les émissions sur les jeunes passent, mais pourtant, j'ai quand même vraiment envie de me dire, j'ai apporté ma part et j'ai voulu défendre... mon droit en tant que jeune, parce que je ne peux pas défendre les droits de tout le monde, donc je fais sur le mien et je veux me dire, aujourd'hui, je veux réagir, je veux dire qu'on existe, on est bien là, on est bien vivant et on ne veut pas se laisser sombrer par les études.
Merci d'avoir réagi sur Europe 1 ce soir, Léocadie.
Ben, merci beaucoup à vous de m'avoir donné la parole, de m'avoir écouté et d'avoir discuté.
Avec grand plaisir. Prenez bien soin de vous.
Merci. Merci. Bonne soirée.
Au revoir.